Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
J'entends souvent des expressions justement comme ça, du style « mais le voyage, c'est pas la vraie vie, mais après tu reviens au monde réel, donc à la vraie vie ». Eh bien, je suis désolée de le dire, mais en fait, la vraie vie, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de réponse universelle. À nous de nous créer notre vraie vie, et si la vraie vie, pour quelqu'un demain, c'est de vivre sur la route pendant 8 ans, 10 ans, bah, c'est la vraie vie. Et à l'inverse, si quelqu'un est bien dans son entreprise et dans une vie plus standard, plus normale, en tout cas, qui fait moins peur, eh bien, c'est chouette aussi. Et l'essentiel, c'est d'aller se trouver. Et à partir du moment où on est sûr de ses choix et qu'on se lève le matin avec motivation, enthousiasme et en voyant en tout cas le chemin parcouru, ben c'est génial.
Encore un parcours qui claque. Hippocagne Cagne, école de commerce, CDI dans une société de services informatiques parisienne, Sarah, à 28 ans, avait tout réussi. Pourtant, son travail était à des années-lumière de ce qui la faisait vibrer. Il y a 2 ans, quelque chose se brise en elle. Elle décide alors, avec son compagnon, cadre dans le secteur bancaire, de tout plaquer. Appartement, confort et sécurité, pour partir, faire un tour du monde.
Je suis Sarah, 29 ans, alsacienne, de retour d'un tour du monde d'un an et demi et en quête de ma vie idéale. Alors, les bases de mon histoire, c'est plutôt simple. J'ai grandi près de Strasbourg, à la campagne, dans une petite famille. Alors, on est 2 filles, moi je suis l'aînée, ma sœur a 5 ans de moins que moi. Et on a vraiment grandi dans une maison, dans le petit village, entouré d'animaux, donc ça c'était hyper cool. Tous nos voisins avaient des chevaux, des moutons, des poules, donc j'ai vraiment, vraiment adoré cet univers. Et côté famille, je dirais que ma famille vraiment au complet, on doit être peut-être 10-15, on est hyper proches, on fait beaucoup de rassemblements, de choses comme ça. Et après sinon au niveau famille, c'est plutôt simple, famille classe moyenne, ma mère est enseignante. Plus précisément directrice d'une école maternelle, et mon père est commercial et il était toujours sur un territoire Grand Est, et donc il se baladait de client en client, voilà. Donc somme toute une vie assez classique dans une famille d'Alsace, voilà. Je crois que petite j'étais vraiment très curieuse, assez autonome, assez malicieuse. Ce qui revient souvent quand mes parents me rappellent un petit peu le passé, c'est que j'avais du caractère, que je savais où je voulais aller, que j'étais une très bonne négociatrice. Donc j'arrivais à les convaincre de m'acheter des trucs ou de prendre des décisions qui n'allaient pas du tout dans leur sens et ça les faisait beaucoup rire. Alors je savais pas exactement ce que je voulais faire précisément, mais je savais que j'adorais les animaux. Donc a priori, que ce soit vétérinaire ou un autre boulot, ben, il fallait qu'il y ait des animaux, quelque chose où ça bouge. J'adorais prendre l'avion aussi petite. Ensuite, collège-lycée, je dirais que j'ai été un peu plus effacée, un peu plus introvertie. En tout cas, au collège, ça a peut-être joué, ou en tout cas, ça a dû influencer. Notamment en 6e, je me rappelle que j'avais vécu un peu de harcèlement scolaire à un moment. Et suite à ça, même si j'avais des amis en cours, ça se passait hyper bien. J'étais vraiment la bonne élève, pas pénible, qui suit ce qu'il faut faire, qui fait les devoirs à temps, etc. Et c'est peut-être au lycée où ma personnalité aussi, j'ai commencé à voir l'évolution et que je sortais un petit peu du cadre. C'est qu'au moment de faire les grands choix, type on arrive en première, il faut faire un choix déjà, S, E, S, L, la question c'était pas vraiment posée, j'avais de bonnes notes, je suis allée en S. Et à ce moment-là, ça a été un petit peu la découverte pour moi. j'étais là, oh zut, en fait, mince, ça me plaît pas. Mais alors, ça me plaît pas du tout, maths, physique, sachant que j'ai toujours été plutôt littéraire, j'adore lire, j'adore écrire. Depuis toute petite, j'ai des carnets que je remplis tout le temps d'histoires, de choses que je garde pour moi. Et à ce moment-là, vraiment, c'était la première fois que j'étais confrontée à une difficulté. Les profs aussi étaient un peu abasourdis, du type, mais en fait, t'as des bonnes notes partout, mais sauf en maths et en physique, et ça n'accroche pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont décidé de manière assez originale, et ça m'allait, que j'allais passer en terminale ES sans redoubler. Donc, j'ai fait une première S, une terminale ES, qui s'est passée hyper bien. Du coup, l'originalité, c'est que j'ai pas passé la SVT au bac, par exemple, donc plutôt drôle, et j'ai eu qu'une année d'éco. Mais en fait, ça m'a suffi, et ça s'est hyper bien passé. Bac avec mention, bref, problème réglé, en apparence. Et là, à nouveau, le questionnement de qu'est-ce que tu fais après? J'hésitais, j'avais deux choix, soit Sciences Po et éventuellement journalisme, c'était un petit peu mon rêve, et de l'autre côté de me dire tu peux faire une prépa, parce que tout le monde va faire une prépa et qu'une prépa c'est quand même chouette. Et donc je suis partie en Hippocagne-Caigne en me disant bah, c'est trop bien, tu fais un petit pas de côté par rapport à tous tes amis qui vont en prépa HEC, c'est déjà quelque chose, et tu vas enfin avoir le goût des lettres. Et déjà dans l'entourage, les gens rigolaient, ils me disaient « Alors t'as fait une première S, terminale ES, et tu finis en prépa littéraire. Tu nous as vraiment fait tout le scope de ce que tu pouvais faire, et je croyais que ça me ressemblait pas mal. » Donc c'était peut-être déjà une indication de la personne que j'étais en train de devenir. Alors l'Hippocagne, j'aime bien, mais encore une fois, je me retrouve pas exactement à 100% dans le schéma. Je me retrouve avec des élèves ultra passionnés pour le coup, qui savent vraiment dans quoi ils ont mis les pieds, qui lisent, c'est presque caricatural, mais de la poésie pendant les pauses, qui sont à fond, qui ont tous leurs auteurs préférés, et moi un peu comme un ovni, j'arrive là-dedans, je sais que j'aime bien tout ça, mais sans non plus m'y dédier à 10 000%. Donc je prends ce qu'il y a à prendre, la première année se passe bien, j'ai pas beaucoup d'interrogations. La seule chose, c'est que je sais que l'ENS, ça me parle pas, ce sera pas pour moi, donc l'école normale supérieure, qui en fait est l'objectif en sortant de la prépa littéraire. La deuxième année, ça se corse un peu. La prépa, c'est quand même un monde à part, on est dans une bulle où on nous répète qu'on est l'élite, qu'on va devenir des gens importants. Et je me sentais un petit peu pas vraiment en phase en fait avec ce discours-là. Et la chose un peu marrante, c'est qu'en parallèle, j'avais un petit boulot étudiant que j'avais commencé en fait après le baccalauréat et qui me plaisait bien. J'étais caissière dans un supermarché et c'est bête, mais ça me faisait vraiment du bien. Mes profs, quand ils l'ont su, m'ont horrifié, du style « mais enfin, t'es en cagne et t'es caissière dans un supermarché à côté, mais Sarah, il faut travailler, enfin, là c'est plus le moment de perdre son temps ». Voilà. Et en fait, pour moi c'était bénéfique parce que j'avais ce côté un petit peu de la dualité entre une bulle très théorique et j'avais l'impression que c'était pas vraiment le vrai monde, la vraie réalité, et à côté mon job, beaucoup plus simple, où clairement le boulot est pas le plus simple et pas le plus agréable par moment, mais je trouvais que ça correspondait mieux au monde réel, que c'était ça la vraie vie. Donc j'ai continué un peu là-dessus, entre les deux, en me disant bon, c'est quoi la porte de sortie, qu'est-ce que tu fais après? Et ça s'est décanté, et à un moment je me suis dit ok, je sais, faut que je me rapproche de quelque chose de plus pratique, école de commerce, c'est large. J'aurai plein de possibilités, ça me laisse encore 3 ans pour réfléchir à mon futur. Donc j'avais le sentiment d'avoir vraiment trouvé la bonne chose pour moi, et forte de ça, j'ai passé les concours, et donc j'ai intégré une école de commerce. Je suis allée à Reims, donc maintenant ça s'appelle Neoma, à l'époque c'était Subdeco Reims, que j'ai intégré d'ailleurs non pas suite à la prépa directement, mais après une année que je qualifierais d'année passerelle, qui a été super chouette. Et donc j'ai trouvé une école à Paris, qui proposait une année de bachelor, super chouette, en alternance, en entreprise, et de passer en fait les concours qu'on appelle tremplin ou les concours passerelles, et d'arriver en bac plus 3 en école de commerce. Et je vais enfin connaître ce monde de l'entreprise avec l'alternance, qui a l'avantage également de ne pas me faire payer les frais de scolarité, et pour ma famille je trouvais ça super chouette, et pour moi aussi, donc j'ai foncé là-dedans. Donc j'arrive à Paris à 21 ans, je connais personne, j'ai mis peut-être une fois un pied dans la capitale, et je commence les cours dans cette école, où le deal c'est, vous avez jusqu'à telle date, type mi-octobre, pour vous trouver une alternance, dans ce que vous voulez, hein, c'est ouvert, allez-y, on n'a pas énormément d'aide, on a quelques tuyaux pour nous indiquer, mais c'est ouvert. Et là je réalise, et c'est très drôle, je me retrouve en classe, avec une trentaine d'élèves, seulement 3 de prépa, dont moi, et tous les autres qui ont fait des IUT, fac, même des BTS parfois avec des reconversions, tous ont une expérience professionnelle, sauf nous 3, hormis mon petit job étudiant, et il faut postuler dans les grandes entreprises parisiennes. Et forcément, en termes de CV, même si on a la prépa sur, comme petite ligne, ça fonctionnait pas. Donc j'ai passé des mois et des mois à candidater partout, à postuler en me disant « mon rêve, c'est les médias ». Et ça fonctionnait pas. Et au final, ça s'est décanté, je crois, une semaine avant la date butoir. J'étais contactée par TF1 qui m'a dit « bon, bah, banco, entretien ». Et de là, j'ai eu un poste en alternance un an chez TF1. Et donc pour moi, c'était le Graal, c'était le rêve. J'arrive dans les médias, dans un milieu du coup dont j'ai toujours rêvé, par une porte qui n'était pas celle que j'avais imaginée d'abord. Et ça y est, la vraie vie commençait, la vraie vie concrète d'entreprise. À l'époque, en tant que débutante là-dedans, oui, c'était sympa parce que on arrive dans une entreprise quand même qui est connue, qui est renommée, dans un milieu assez glamour. On rencontre des célébrités dans l'ascenseur. On a des privilèges de travailler là, salle de sport, super cantine, des rendez-vous intéressants. Le boulot est pas super compliqué. Enfin, en tout cas, comme découverte d'entreprise, à ce moment-là, je me disais qu'il y avait pas mieux et je l'ai vraiment super bien vécu. J'ai rencontré des gens qui sont restés des amis proches. Donc franchement, cette année-là est passée très rapidement et ça me convenait bien d'être en cours et chez TF1, même si côté cours, je passais de dissertation de philosophie sur la liberté à des cours de comptabilité et de fiscalité. C'était pas facile, mais je me suis dit c'est un petit peu obligatoire pour ce que tu vas faire après, donc voilà, donc go. Alors après ça, j'intègre l'école de commerce de Reims pour 2 ans de master, et je me dis l'alternance a été une expérience génialissime, donc je continue en alternance. Et au moment de choisir une alternance, pareil, je recontacte les médias, j'essaie de voir un petit peu à droite à gauche, et le hasard fait que à ce moment-là, mon rythme d'alternance convenait pas aux sociétés que je contacte. Donc je passe 2-3 entretiens dans l'édition, pour des chaînes de télé, et on me dit à chaque fois, Sarah, ça pourrait le faire, mais là franchement, nous notre rythme, c'est autre chose, ça nous va pas, désolée. Je me dis, c'est pas grave, je vais élargir mon champ d'horizon. Après tout, l'alternance, c'est aussi pour découvrir des compétences, découvrir des entreprises. Ça remettra pas en question forcément le métier que je veux faire demain. Et à ce moment-là, je me rends compte que des entreprises dans l'informatique cherchaient des gens. Et à l'époque, IBM notamment recrutait beaucoup de monde. Et je me suis dit, bon allez, ouverture d'esprit à 10 000%, je vais passer les entretiens. C'était un poste de commercial en plus, sur des sujets de cloud computing. Je connaissais rien, mais qu'est-ce que c'est donc ? J'y suis allée et ça s'est super bien passé. Et j'ai vu l'équipe, j'ai visualisé ce que j'allais faire. Bon, j'ai eu du mal à visualiser, mais je me suis dit, allez, je vais faire confiance. Et je suis partie. Et donc, j'ai signé un contrat de 2 ans chez IBM. C'est vrai que j'ai toujours eu cette curiosité de me dire, le pire pour moi, c'est l'ennui. J'ai pas envie de rester inerte, j'aime pas stagner. J'ai besoin de découvrir des choses. Donc là, bon, secteur pour le coup auquel j'avais jamais pensé. Les ordinateurs et moi, ça faisait 2, mais c'est pas grave, c'est une expérience, et puis pour le coup, c'est aussi une belle société, donc je fonce, et je l'ai pas regretté. Après IBM, j'ai encore mon échange à l'étranger à faire dans le cadre de mon master, et je pars en Amérique du Sud, à Santiago, au Chili. C'était un petit peu un rêve, et voilà, je coche encore une fois une case de ce qui me donnait vraiment envie. Je passe 6 mois là-bas, c'est génialissime, j'apprends à découvrir un pays, une culture, un continent aussi, parce que je voyage à droite à gauche dans les pays voisins. Les 6 mois passent super vite, et là je reviens, il me reste quelques mois pour finir mon master 2, et surtout il faut que je commence les recherches d'un CDI. Donc j'arrive dans cette phase pas fun, je déprime un peu, je me rends compte que j'ai pas spécialement envie de postuler, je m'écoute pas et je me dis bon allez tu fonces. Comme je sortais d'IBM et de l'informatique, j'avais un petit peu un double choix à nouveau, c'était est-ce que tu t'engages dans un métier plutôt artistique, est-ce que tu peux faire du management culturel, du management audiovisuel, partir dans les médias, enfin, t'as ce choix-là, mais c'est bouché, c'est souvent des rémunérations un peu plus compliquées, si t'as pas le réseau pour, ça peut être challenging, et de l'autre côté, t'as eu 2 ans derrière toi où t'as appris plein de choses, dans un secteur ultra porteur, un secteur masculin, mais justement, peut-être que le fait d'être une femme, si tu bosses bien, ça peut t'amener à des endroits auxquels t'avais pas songé. Et à ce moment-là, bah, j'ai réfléchi de manière rationnelle et je me suis dit, bah, je vais aller dans le secteur qui est en pleine croissance et dans lequel il y a plein de boulot. Et donc, j'ai été recrutée en cabinet de conseil et j'ai démarré mon premier CDI en tant que consultante pour un super cabinet parisien. À ce moment-là, je dois avoir 22 ans et j'ai une vie ultra parisienne. Je vis en colocation dans le 18e, j'ai tous mes amis à Paris. J'ai vraiment cette vie un peu cliché, boulot, apéro, dodo, métro aussi. Et en fait, ce premier job va pas durer longtemps. Il va vraiment pas durer longtemps parce que je démarre avec tous mes rêves et l'impression d'avoir accompli un truc de fou. En plus, les entretiens s'étaient super bien passés, donc j'avais aucun doute. Et je tombe un peu de ma chaise en me rendant compte de la réalité concrètement du job de consultant, en plus en informatique, sur les sujets que j'adressais. Et je me rends compte que j'aime pas du tout ça. Et qu'il y a une pression énorme dans ce milieu-là, presque brute dans la manière de manager, qu'il faut tout de suite, au niveau rendement, être super efficace, en même temps être discret, savoir avoir l'intelligence avec les clients. Et donc, avant la fin de la période d'essai, d'un commun accord, c'est terminé. Et je m'en vais. Mais je m'en vais, non pas en me disant, et c'est peut-être encore là une erreur, vraiment l'informatique, peut-être que c'est un petit signe que c'était pas le bon secteur, non, ça je le vois pas encore. Je me dis juste, bon, tu étais consultante, avant tu étais commerciale et t'adorais ça. En fait, il faut que tu sois commerciale en cabinet de conseil, c'est ça. Donc je postule dans un autre cabinet de conseil et je deviens commerciale. Et là, en termes de job, en tout cas, de périmètre, de responsabilité, ça me va bien. Je m'éclate sur le plan du job. En plus, j'ai un peu vu ce que c'était d'être consultant. Donc je suis hyper dans l'empathie et dans, c'est pas grave, je vais un peu chouchouter mes équipes et puis ça va bien se passer. Et je reste 2 ans dans ce cabinet. Sur le coup, en tout cas avec le recul, le job était vraiment intéressant, si je parle juste du pro. Maintenant, ce qui m'a gênée, c'est que mine de rien, c'est un milieu qui reste très archaïque, très traditionnel, masculin, toujours, c'est l'informatique. Au fond, même si le job est sympa, je partage pas forcément les valeurs de la société, je partage pas les valeurs du management, que mes collègues sont à l'opposé de ce que je suis dans la vie privée, souvent des milieux plutôt bourgeois, plutôt catho, avec de fortes idées sur ce que doit être le monde, la société, des moqueries aussi sur les femmes. Il y a quelques consultantes qui passent souvent dans l'open space, dès qu'elles sont parties, ça rigole dans tous les sens. Et moi, un peu là au milieu, à me dire « mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ?» Et en même temps, pas la force ou peut-être pas le courage de dire « mais non ». Enfin, un stop. Et donc, je constate. Je prends du recul, je constate et je continue mon boulot. Jusqu'au moment où je me dis, bon, là, ce cabinet de conseil... Et un des déclics, en tout cas, une phrase qui est restée, je me souviens notamment qu'à l'époque, deux de mes collègues qui étaient dans mon dos étaient morts de rire, enfin, étaient vraiment ultra étonnés, choqués, je sais pas, parce qu'une de leurs amies, connaissances d'école... venait de tout lâcher, son job, sa vie, pour devenir prof de yoga en Inde. Et je les entendais glousser, mais mort de rire à l'arrière, à se dire « mais oh là là, mais quelle idiote, mais qu'est-ce qu'elle fait de sa vie ?» C'est une catastrophe, et je me disais mais c'est fou, mais moi je pense tout l'inverse. Mais c'est génial ce qu'elle fait cette nana. Alors, ça peut être cliché, on peut se dire que c'est à la mode, partir en Inde, faire du yoga, mais sur le fond, je trouvais que cette nana, c'était top, et je me suis un peu dit dans un coin de ma tête, mais bon, ils rigolent, ils auront la vie qu'ils auront, et c'est pas la mienne en tout cas, et il y a un moment où je ferai sans doute la même chose, de bouger, de sortir du carcan, d'aller vers mes aspirations. Je savais juste pas encore quand est-ce que ça allait se produire, mais j'en étais de plus en plus proche. La graine était plantée, et de là, j'atterris dans la dernière entreprise, toujours à Paris, toujours dans le milieu informatique, mais plus un cabinet de conseil. J'y reste encore 2 ans. Ce job-là, sur bien des aspects, est bien plus intéressant pour moi que le précédent. J'ai plus de responsabilités, j'ai un super salaire, donc on va pas se cacher, sur le moment, c'est hyper grisant. J'arrive à un niveau de salaire que n'ont même pas mes parents en fin de carrière aujourd'hui, donc sur le moment, je me dis « waouh, quand même, j'ai 23-24 ans ». Je fais partie des privilégiés. En termes d'horaire, c'est plutôt libre. On est dans un esprit start-up. Donc, je trouve quand même des choses qui m'intéressent là-dedans. Et je vais y passer 2 ans de manière somme toute agréable. Si ce n'est qu'au bout de quelques mois, une énorme réorganisation arrive dans l'entreprise que je n'avais pas du tout imaginé, que personne n'avait envisagé. De là, mon directeur commercial se fait remercier. C'était lui qui m'avait recruté. On s'entendait très bien. Et une nouvelle organisation au niveau international se met en place et on m'annonce du jour au lendemain que mon directeur ne sera donc plus à Paris, mais un Américain que je ne connais pas au fin fond des États-Unis, et qu'à partir de là, les réunions se feraient en conf-call avec le décalage horaire et qu'il faudrait s'y faire, et que parfois ce monsieur viendrait nous rendre visite, mais que globalement on resterait très autonome à Paris. Voilà, et donc du jour au lendemain, je passe d'un directeur en présentiel face à moi à une personne inconnue au fin fond des États-Unis. Et ça m'a semblé vraiment absurde. Mais c'est vraiment de le vivre au quotidien qui est devenu absurde. Et je pense que ça a été peut-être le déclic final pour engager quelque chose et sortir de ce processus de salariat, de Paris, de l'informatique, de ma vie. Beaucoup de mes collègues d'ailleurs sont partis avant que je ne parte. Et je pense que c'était vraiment voilà, le bon moment pour moi de me dire « Ok, go ». Je vis avec mon compagnon, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a un appartement dans le 16e à Paris avec une terrasse vue Tour Eiffel, donc on est très bien. À côté, on essaye de se faire de beaux voyages à droite à gauche, mais étant donné les 5 semaines de congé, c'est vrai qu'on ne part pas très loin ou on ne part pas trop longtemps. Et c'est quelque chose qui commence à me manquer. En tout cas, depuis l'Amérique du Sud, j'ai jamais été à nouveau plusieurs mois loin. Et je commence à ressentir qu'au-delà de cette prison du boulot, je me sens aussi enfermée à Paris, en fait, où je vis depuis déjà 5 ans, 6 ans même à l'époque, où j'ai une vie qui, pour le coup, pourrait se dérouler comme ça pendant des années et des années. Et je vois pas forcément le moment où ça pourrait devenir différent. Et mon compagnon non plus. Et donc, à force d'en parler et de se dire, bon, là, il y a peut-être un souci, on s'est dit tous les deux, mais tiens, et si on partait pas voyager? Et si on partait voyager, ce serait dans combien de temps? Et là, on réalise que on pourrait le faire dans 10 ans, certes, mais dans 10 ans, on aura peut-être des enfants, on aura la quarantaine, c'est pas forcément le moment propice. Et on a souvent tendance sur des rêves ou des fantasmes à se dire « plus tard, ce sera quelque chose que je ferai dans quelques années ». Oui, mais ces quelques années, c'est quand? Et c'est là qu'on s'est dit « mais zut, en fait, si on le fait pas maintenant, là, tout de suite, on le fera pas, c'est sûr, on le fera pas ». Et de là, je crois qu'il y a eu un commun accord très facile, et on s'est dit « bah oui, il faut qu'on parte ». Et on va partir là. Donc on va préparer le voyage, on va organiser tout ce qui a attrait à ce tour du monde, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire un tour du monde. Et à partir de là, allez, on part et on attaque. Alors mon compagnon, il travaille en banque. Donc il a un petit peu le même genre d'enjeu que moi au quotidien, c'est-à-dire un management qu'il ne comprend pas toujours, des missions qui ne l'intéressent pas particulièrement, et cette insatisfaction de faire quelque chose qui n'a pas forcément du sens, et qu'il pourrait faire toute autre chose, il ne sait pas quoi encore à ce moment-là, qu'il pourrait faire toute autre chose, mais que ce n'est pas ce boulot qu'il est en train de faire là, tout de suite. Moi, finalement, ça me semblait évident, de par le fait d'avoir voyagé en Amérique du Sud. Je sentais que, à la fois, j'avais envie de retourner là-bas, mais de découvrir aussi d'autres endroits que je ne connaissais pas. J'ai toujours eu cette curiosité du monde, donc ça semblait presque évident. Et pour mon compagnon, c'était aussi, allez, pour une fois, on va arrêter de trop réfléchir, on va arrêter de planifier notre vie à 1 an, 5 ans, 10 ans, ce qu'on a tous tendance à faire. On a sans doute besoin de prendre du recul. Le recul passera pour nous par le voyage et ça permettra peut-être d'apporter aussi d'autres champs des possibles à notre couple et à nous en tant qu'individus, donc à chacun de nous deux. On commence à en parler globalement 1 an avant d'être parti, à peu près. Il va quand même falloir préparer un minimum, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau itinéraire, que ce soit au niveau boulot, au niveau déménagement. Donc on identifie les grandes étapes pour partir et pour se délester de notre vie. Et puis on commence à en parler autour de nous aussi et à recueillir les premiers avis des amis, de la famille, qui sont souvent étonnés, ça c'est le moins que je puisse dire. Vraiment surpris dans le sens de... comment est-ce que vous pouvez quitter cette vie-là alors que c'est quelque chose auquel tout le monde aspire? Et c'est aussi l'accomplissement de toutes ces études que vous avez pu faire. Vous êtes dans un super job, en CDI, avec des bons salaires, à Paris, vous avez un super appart. Pourquoi remettre tout ça en question? Donc à ce moment-là, nous, on n'avait pas vraiment de doute, hein, on savait qu'on voulait partir. On a eu parfois des interrogations, est-ce qu'on fait le bon choix? Mais dans tous les cas, on savait qu'on allait partir. Et donc on s'est dit, allez, on va fixer telle somme. Là, pour le coup, on s'était un peu renseigné sur les sites de voyage, sur les personnes qui revenaient de tour du monde. On a beaucoup, on a passé des heures sur Internet à essayer de faire un petit peu un benchmark de ce qui se faisait. Et on s'est dit, bon, on se fixe telle somme, on essaye de l'obtenir. On a tant de mois devant nous. On se disait qu'on avait entre 6 mois et 1 an potentiellement, hein, en fonction de notre patience et de notre tolérance encore sur le métier qu'on faisait et sur notre vie. Mais on adaptera l'itinéraire s'il le faut, la manière de voyager, et on essaiera de trouver en nous des ressources pour réussir à tenir avec ce budget-là. Et finalement, si on tient que 6 mois, ben ce sera déjà 6 mois. Si on tient 1 an, c'est 1 an, et si on tient plus, ce sera plus. La grande majorité a été mise de côté en 1 an, en vraiment en ne faisant plus aucune dépense quasiment. On s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'achats compulsifs qu'on a arrêtés, on a réduit les sorties, on a réduit les consommations, bref, on a vraiment mis de côté un maximum Et une fois que la somme était atteinte, on s'est dit, bon, allez, là, on part. On se fixe donc un temps X, on ne sait pas. L'aventure nous le dira, mais on part avec cette somme. Et quand elle est terminée, on rentre. J'ai conscience aussi qu'on fait partie des privilégiés. Et à l'époque, on avait de très bons salaires, ce qui nous a permis aussi de mettre de côté facilement. Je trouve qu'entre s'acheter une petite robe ou mettre de côté en se disant que dans X mois, on sera sur la route, y a une satisfaction qu'on ne retrouve pas forcément dans un plaisir immédiat matériel. Pour partir en tour du monde, il y a plusieurs options. Beaucoup de personnes ont recours justement à des billets tour du monde qui permettent un certain nombre d'escales dans un certain nombre de pays. On a regardé, c'était pas forcément ce qui nous convenait parce que là, pareil, on voulait justement sortir un petit peu du cadre et de la rigidité de la vie. Et on savait pas forcément où on allait, donc on avait tracé un itinéraire assez global entre l'Asie et l'Amérique. Mais on sentait déjà que peut-être il y aurait des évolutions et qu'on ne pouvait pas prédire à ce moment-là ce qui allait se passer. Donc on n'a pas du tout pris de billets tour du monde, on est juste parti avec un aller simple, et à l'époque c'était un aller pour Bangkok. Donc Thaïlande, c'est tout, juste cet aller, et puis nos sacs à dos de 10 kilos maximum, avec quelques affaires dedans, voilà. On a atterri à Bangkok, c'était fin janvier 2019, le début, on avait vaguement regardé, mais on savait déjà qu'on voulait juste faire la Thaïlande du Nord, parce que c'était ce qui nous bottait le plus à ce moment-là, et qu'ensuite on avait un super itinéraire qui devait nous amener au Laos, au Cambodge, et ensuite on verrait. Et puis finalement les choses se sont pas passées comme prévu, parce qu'on a adoré la Thaïlande, et qu'on est effectivement remonté quasiment jusqu'au Laos, et à ce moment-là les rencontres ont fait qu'on s'est dit, tiens, si on allait en Indonésie, et donc on n'est pas allé au Laos et on a atterri en Indonésie. En Indonésie, ça a été un coup de cœur, on a été notamment à Bali et sur l'île de Java. Et là, j'ai pas de mots, mais ça a été peut-être une des plus belles expériences du voyage, même si on a eu des dizaines et des dizaines. Et on était là à se balader à Java, où il y a très peu de touristes dans la zone où on était, en scooter au milieu du village où il y a personne qui passe, à jouer au foot avec des enfants, à nous mêler aux villageois, super étonnés de nous voir là. Donc on a vécu de très très beaux moments. Et comme ça fonctionnait bien, ce système de se dire « on suit notre instinct, et même si on a un plan de route, on peut le dévier, on peut contourner », on a continué comme ça, et donc pour la suite, notre itinéraire s'est beaucoup, beaucoup modifié. Et on est passé par des pays qu'on n'avait pas prévus. Taïwan, par exemple, qu'on n'avait pas forcément mis sur notre plan de route. Et à ce moment-là, l'actualité a aussi fait qu'on a vécu de très belles choses dans des pays. L'actualité, le calendrier, le timing. On a, par exemple, vécu le nouvel an balinais, quand on était à Bali. Pour le coup, c'était pas fait exprès, mais on s'est retrouvés avec les villageois à fêter Nouvel An dans les parades. Et puis le Nouvel An balinais est très particulier parce qu'on passe d'une journée de fête à une journée de silence et de méditation. Sur la deuxième journée, les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Ouais, je connaissais pas tout ça. C'est vraiment une journée de recueillement. On n'est pas censé allumer l'électricité, pas censé faire de bruit. On est pour soi. Et on l'a vécu. On est ensuite allé beaucoup plus loin dans le voyage en Amérique du Sud. On y est arrivé en plein pendant l'épisode des manifestations, des grosses manifestations qui ont pu avoir lieu à Santiago, au Chili, et dans d'autres villes du Chili, mais aussi en Bolivie, lorsqu'Evo Morales a été destitué. On y était. On était à La Paz à ce moment-là et à Uyuni. On a vraiment vécu, en fait, c'était assez drôle, au rythme de ce qui se passait. Et partout où on allait, il se passait quelque chose. Donc on l'a vu comme une chance. Les gens étaient un peu paniqués pour nous, et même parfois on a douté, on s'est dit zut, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était super chouette. Côté économie et budget, on n'est pas du tout rigide non plus, on se fait confiance. L'Asie est un super point de départ pour tout tour du monde, et je ne peux que recommander aux gens d'aller là-bas parce que c'est pas très cher, et qu'en général, pour quelques euros par jour, on mange très très bien. La street food est à l'honneur en Asie et on s'est fait plaisir. Et en question logement, pour nous, il était évident qu'on n'allait pas dormir dans des hôtels et c'était pas forcément l'objectif. Donc on était essentiellement en auberge de jeunesse ou en chambre d'hôte. Parfois, on a eu des logements plus insolites, type Airbnb, sur quelques petites choses qui nous intéressaient, mais globalement, c'était essentiellement auberge de jeunesse et chambre d'hôte, et aller en fait au plus près des habitants, de ce qu'on pouvait voir. C'est quelque chose qui permet sur la durée, en tout cas, de se projeter. On faisait des estimations et on se rendait bien compte que, à ce rythme-là, en tout cas, on tiendrait bien un an sur la route. Donc pas d'inquiétude, et toujours à se dire, le jour où on n'a pas de sous, c'est pas grave, on rentre, on se laissera de quoi payer un billet d'avion, et on rentre, et la vie d'après, on verra. Alors la chance qu'on a eue également, et qui nous a peut-être apporté un filet de sécurité, c'est qu'on a tous les deux essayé d'avoir une rupture conventionnelle en partant, et c'était le cas, on a réussi tous les deux à l'obtenir. On n'est pas du tout parti en se disant « voilà, on a l'argent du chômage, chouette, on part en voyage ». Non, c'était « on met de côté, on a notre projet, par contre au retour, on ne sait pas ce qu'on va faire, et sans doute qu'on aura une reconversion professionnelle, l'un ou l'autre, les deux, et à ce moment-là, ce sera peut-être bien de pouvoir s'inscrire côté Pôle emploi ». Et on a gardé ça vraiment comme un filet de sécurité pour la suite. Donc on a été après l'Asie, au Canada, là c'était un petit peu particulier puisqu'on a décidé de faire une expérience de woofing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aider dans des fermes, aider dans des exploitations, aider dans des familles, quelques heures par jour en échange du gîte et du couvert. Et on a atterri au fin fond du Saskatchewan, qui est une région, pour ceux qui ne connaissent pas, et je ne connaissais pas, qui ressemble un petit peu au western américain. C'est des ranchs, c'est une région toute plate, avec du bétail, des gens qui font du rodéo. Donc là, on s'est retrouvés là-dedans, et dans une maison ferme, avec plein d'animaux. Et notre objectif pendant un mois, c'était de s'occuper des animaux le matin, le soir, avec une famille super chouette qui nous a fait découvrir toute la région, qui nous a emmené dans toutes les activités possibles, bah, des rodéos notamment, où on voyait des cow-boys au lasso. C'était quand même quelque chose d'énorme, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est trop bien. Un monde qu'on connaît pas du tout pour le coup, et on a vécu ça à 10 000%. Donc notre job, c'était un peu le job de rêve pour nous. On s'occupait d'une dizaine de chevaux, de poules, de canards, de lapins, de chiens, de chats. Et en essence de ça, on était à la maison avec une famille canadienne à vivre le quotidien, quoi. Donc juste parfait. Mais on avait vraiment plaisir à faire ça. On se levait, on voyait des chevaux nous regarder en sortant de la maison, tous les animaux un peu partout dans le jardin. On arrivait avec nos seaux pour les nourrir, s'occuper d'eux. Enfin, c'était pas du tout une contrainte. Et le reste du temps, mine de rien, on avait nos moments et on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Donc c'était chouette. Et pour ceux qui cherchent peut-être des alternatives à leur vie, c'est un bon moyen d'aller tester des choses et de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et pour nous, ça a été la confirmation qu'en tout cas, on aimait la campagne, qu'on aimait les animaux, que la vie simple ne nous posait pas du tout de problème, que Paris, à ce moment-là, ne nous manquait pas du tout, et qu'au contraire, même si le côté western à la canadienne, mais c'est très proche du western américain, c'est pas notre idéal de vie, bien sûr, mais ça nous a permis de découvrir quelque chose à l'opposé de ce qu'on vivait quand on était à Paris. Finalement, on construit une vie sur quoi? En se disant que c'est la vie idéale, que la société nous met un petit peu en tête, en se disant que c'est la vie idéale pour beaucoup de gens, et on découvre qu'on ne se connaît pas si bien que ça, ou en tout cas qu'on croyait se connaître, qu'on s'est souvent ignoré, qu'on a souvent mis de côté les pensées qui pouvaient surgir du type « est-ce que tu as vraiment envie de faire ça ? Est-ce que ton rêve ce n'était pas de faire autre chose ?» Mais comme on a tendance à rationaliser aussi, puis la société nous l'impose un peu, c'est vrai qu'il est facile de mettre les rêves et on va dire ce qu'on peut appeler un petit peu des chimères de côté, et se dire non, la vraie vie, c'est ça, la vraie vie, c'est le boulot stable, c'est l'appartement, c'est l'achat immobilier, c'est les enfants, etc. Alors qu'en fait, il y a peut-être une autre vie qui est possible et qui colle aussi à la vraie vie, mais à nous de créer cette vraie vie-là. J'entends souvent des expressions justement comme ça, du style mais le voyage, c'est pas la vraie vie, mais après tu reviens au monde réel, donc à la vraie vie. Eh bien, je suis désolée de le dire, mais en fait, la vraie vie, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de réponse universelle. À nous de nous créer notre vraie vie, et si la vraie vie, pour quelqu'un demain, c'est de vivre sur la route pendant 8 ans, 10 ans, bah, c'est la vraie vie. Et à l'inverse, si quelqu'un est bien dans son entreprise et dans une vie plus standard, plus normale, en tout cas, qui fait moins peur, eh bien, c'est chouette aussi, et l'essentiel, c'est d'aller se trouver. Et à partir du moment où on est sûr de ses choix et qu'on se lève le matin avec motivation, enthousiasme et en voyant en tout cas le chemin parcouru, bah c'est génial. Il n'y a pas de vérité universelle. Et ça, je pense que je l'ai vraiment compris sur la route. Étonnamment, la relation de couple s'est très bien passée. On avait un petit peu peur. On appréhendait en partant, je pense que c'est normal. Rien qu'en évoquant le sujet avec nos amis, avec la famille, on nous disait souvent « Ah, c'est peut-être un peu qui tout double cette histoire, passer un an sur la route ensemble à vous voir H24, ça passe ou ça casse ?» Et nous-mêmes, on s'est dit « Bon, bah ça passe ou ça casse ?» Et c'est passé, c'est même très très bien passé. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, au vu de l'actualité, du confinement dont on sort tout juste, c'est revenu dans les médias ce côté les couples qui se découvrent pendant le confinement, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît jamais à 100%, d'autant plus lorsqu'on a un rythme de vie où on se voit le soir, on se voit le week-end. Mais nous, on l'avait déjà vécu, cette forme de confinement-là, sur la route pendant un an et demi, parce qu'on passait 24-24, 7 jours sur 7 ensemble. Alors oui, il y a des moments d'exaspération, il y a des moments de fatigue aussi, on a moins de patience. Mais surtout, c'est une espèce de vérité comme ça, où on découvre l'autre dans tout type de situation, des plus farfelus aux plus risqués, parfois à des peurs, à des angoisses. Enfin, on se découvre vraiment sans filtre. Et en tout cas, pour nous, ça a été un petit peu l'assurance de se dire, si on a résisté à ça et que notre amour a tant évolué, on est prêt pour plein d'autres projets et on est prêt pour de longues années, en tout cas. Au moment du Covid, on est au Mexique. Il nous reste à peu près 2-3 mois de voyage, on est quasiment sur la fin, on rêve de poursuivre au Guatemala et de terminer notre voyage au Belize. Et on commence à se rendre compte, avec le Covid arrivé en France, à ce moment-là, grosse inquiétude de la part de la famille, et c'est normal, la famille essaie de savoir où on est, comment ça se passe pour nous, sauf que comme il y a eu ce décalage qu'on a vu dans l'actualité entre les différents continents, en Amérique à ce moment-là et au Mexique, il y a pas de cas, voire très peu de cas. C'est pas du tout un sujet. On parle d'une petite grippe en Europe, rien de bien méchant, la vie continue. On suit quand même ça de près, mais en se disant, il n'y a pas forcément d'intérêt à rentrer là tout de suite, puisque la situation se dégrade en France, et que nous, de notre côté, il n'y a pas de situation pour le moment. Donc on reste dans, on reste dans ce flou, peut-être une dizaine de jours, deux semaines. Et on a comme cet instinct, cette intuition, on se dit, bon, bah, le Guatemala, on devait passer la frontière là, on va peut-être pas passer, on attend de savoir. On a très bien fait, puisque quelques jours après, le Guatemala a annoncé la fermeture des frontières aux Français et à tout touriste étranger. Donc là, on s'est dit, bon, là, ça se corse un petit peu, on va rester et on attend de voir. Et comme la situation s'est dégradée très rapidement en France, il a fallu de notre côté prendre une décision très rapidement. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que c'était vraiment sérieux et qu'on passait au stade de pandémie, alors qu'à un moment, c'était difficile de parler de tout ça au niveau gouvernement, on s'est dit, bon, là, le temps n'est plus forcément au voyage, ne serait-ce que parce que ça nous semble pas prudent, ça nous semble plus opportun, parce qu'on va perdre de l'insouciance là-dedans. On a aussi notre famille en France, donc on était concernés. Donc le jeu, on valait pas la chandelle, et on s'est dit, ok, on rentre. Sauf que rentrer n'a pas été une mince affaire, et donc on a fait partie de ces nombreux Français qui ont éprouvé de nombreuses difficultés pour rentrer sur le territoire. Et on a fini par rentrer fin mars. Il me semble qu'à ce moment-là, la France était confinée depuis 2 semaines. Donc on est arrivé à l'aéroport à Roissy, dans un Paris désert, extrêmement étrange. On était un petit peu déconnectés, on comprenait pas trop. C'était quand même très particulier comme ambiance. Et puis il y avait eu tout le stress à l'aéroport, d'être avec beaucoup d'étrangers qui souhaitaient rentrer, dans des conditions de sécurité, de distanciation qui n'étaient pas du tout optimales. On savait pas en plus où était le Covid à ce moment-là, donc on avait même des tendances un peu parano, parce qu'on voyait quelqu'un tousser à côté, des gens qui avaient pas de masque. Voilà, on était un peu prudents, fatigués, stressés, et on avait hâte de rentrer. Et puis on est rentré. Et à partir de là, ça s'est précipité, puisqu'on allait se confiner chez mes parents en Alsace. Et donc on est passé du fin fond du Mexique, dans le Chiapas, à le petit village de mes parents en Alsace. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on se réintègre quand on a fait un tour du monde? On prend des décisions pour sa vie future. En l'occurrence, ça fait quelques mois déjà, même si on n'avait pas envisagé de rentrer si tôt, qu'on est à peu près sûr de ce qu'on veut. Et on sait déjà que la vie à Paris, c'est fini. Voilà, on y a passé de très belles années, mais on aspire à autre chose. Et je pense que ce soit le Canada ou d'autres moments du voyage, on a vraiment pu identifier qu'on aimait la nature, le calme, la campagne. Donc pour le moment, on aspire à un déménagement en Bretagne, si tout se passe bien, et à une petite maison en bord de mer, pas forcément quelque chose de trop grand, mais juste un petit cocon pour nous, dans la nature, et un endroit où on puisse éventuellement créer de nouveaux projets. Et après, sur le plan professionnel, pour ma part, je sais que l'écriture avait toujours été un sujet dans ma vie, toujours quelque chose d'important, mais je le gardais pour moi. Ça relevait de l'ordre de l'intime. Et avec le voyage, j'ai eu ce côté de « j'assume enfin qui je suis », et donc je veux aussi assumer mes écrits. Et à partir de là, j'ai écrit quelques articles sur le site Medium. On a eu un blog de voyage qu'on a créé, sur lequel on a partagé pas mal d'articles sur les pays traversés. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Donc peu importe le projet professionnel que je vais avoir au niveau global, je sais que l'écriture va rester quelque chose et que ça me mènera peut-être quelque part. Et à côté de ça, on a une envie très récente de création de société, d'entrepreneuriat. On est en plein là-dedans avec mon compagnon, donc c'est sans doute trop tôt pour aborder le sujet, mais on a peut-être trouvé là quelque chose qui nous motive à 3000%, qui soit au cœur de nos valeurs et de qui on est profondément. Donc le salariat pour le moment c'est loin, peut-être qu'on y retournera, peut-être pas, et j'avoue qu'on a vraiment envie de tester à fond les options qu'on a devant nous aujourd'hui et cette liberté, quitte à se planter, mais même si on se plantait demain, ce que je ne souhaite pas bien sûr, ce serait juste super de se dire bon bah on est allé au bout de nos rêves et de nos aspirations, on a essayé, et ça nous a appris ça, ça et ça, et du coup grâce à cet apprentissage, à cette meilleure connaissance de nous-mêmes, et ben notre vie prend un autre tournant, ou en tout cas un autre chemin. Alors, pour les 10 ans à venir, je me souhaite de continuer à m'écouter, quelque chose que je fais depuis très récemment. C'est, je pense, en tout cas, peut-être la partie la plus essentielle de toutes. Les deux dernières années ont été peut-être parmi les plus belles que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que même si c'était pas simple tous les jours, on découvre plein de choses, et je pense que j'ai extrêmement mûri, grandi, appris à me connaître, appris à connaître mon compagnon pendant ce moment-là. Et je souhaite que ça puisse continuer comme ça.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sydney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.